On se retrouve là derrière, derrière le palais de justice, sur une petite place, juste derrière le palais de justice de Paris. Et donc c'est de cette institution, du palais de justice, que vous attendez
Qu'on attend simplement que... Enfin, on n'attend pas, puisqu'il le fait déjà, que le juge Trévidique fasse son travail, qu'il le fasse correctement. Et ce qu'on attend surtout, c'est que cet homme qui travaille au palais de justice sur notre dossier puisse avoir les moyens de travailler réellement. Et puis, si un jour on a un procès aux assises, ce sera évidemment l'aboutissement de tout ça.
Voilà, Magali Drouet et Sandrine Leclerc viennent de publier un bouquin, On nous appelle les Karachi, donc deux filles des victimes de l'attentat de Karachi, qui témoignent et qui se battent. Magali Drouet et Sandrine Leclerc ne votent plus depuis 2002. Pourquoi ? Ce n'est pas forcément un exemple à suivre, mais je ne peux pas prendre le risque de soutenir une personnalité qui pourrait être impliquée dans la mort de mon père, explique Sandrine Leclerc. Et nous y voilà cette méfiance, cette défiance face à la politique, face au monde politique, face à l'oligarchie politique, cette défiance. Alors que, voilà, le principe général, c'est que nous sommes des électeurs, nous sommes des citoyens, et ces messieurs et dames sont là pour nous représenter. Je parle d'une manière très naïve, mais face à cette magouille, à ces obscurités, à ces mensonges, à ces dissimulations, il n'y a qu'avec des arguments comme ceux-là qu'on peut se sentir motivé pour lutter. Ces deux femmes ont d'autres motivations qui sont évidemment la mort de leur père.
Là, on est ici à Paris parce qu'il s'est passé quelque chose à 7000 km d'ici, quasiment à l'autre bout de la planète, à Karachi, dans une ville assez importante du Pakistan. Une ville où se trouvaient vos pères.
Alors mon père s'appelait Jean-Yves Leclerc, il était mécanicien dieseliste pour la DCN, il y était rentré très jeune. C'est la grosse entreprise, on va dire, de Cherbourg, et qui était une industrie d'État à l'époque de l'attentat. Donc il est parti à Karachi sur la base du volontariat pour améliorer les finances familiales et entre autres financer les études de ma sœur comme il l'avait fait pour moi. Et dans le cadre du transfert de technologie qui avait été mis en place par la direction des constructions navales autour des sous-marins Agosta. C'était quelqu'un de simple et qui le revendiquait. C'était quelqu'un qui était fier de son statut d'ouvrier. J'ai appris après sa mort, de la bouche de ma mère, en fait, que quelques mois auparavant, papa avait sauvé la vie d'une personne âgée au port de Carqueville où il avait ses habitudes puisqu'il y avait un bateau. Il nous en avait même pas parlé à nous parce qu'en fait, il aimait pas se mettre en avant. C'était quelqu'un de simple, quoi, qui aimait vivre dans son quartier, qui aimait la nature, qui aimait la pêche, qui aimait passer du temps en famille, qui aimait les autres, quoi, tout simplement. Voilà.
Votre vie bascule le 8 mai 2002. Il y a 8 ans de ça.
Alors c'est ma mère en fait qui a entendu l'annonce de l'attentat à la radio assez tôt dans la matinée. Elle a attendu 8h30, 9h également pour me prévenir par téléphone. C'est vrai que sur le coup, j'y ai pas cru. Je pensais qu'on aurait des informations plus personnelles de la part de DCN s'il y avait eu réellement quelque chose. Et en allumant la télé, effectivement, j'ai vu les dépêches tomber qui se faisaient de plus en plus précises. La DCN, les ouvriers, le bus. Et donc a commencé une attente assez longue et assez cruelle, durant laquelle on a essayé de joindre plusieurs interlocuteurs, que ce soit la